Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Lumière du monde venue dans l'obscurité, ouvre mes yeux et je vois. Il s'agit des yeux spirituels, bien sûr. Notre désir et notre prière est que Dieu puisse nous ouvrir les yeux spirituels pour voir les choses telles qu'il les voit. Avant de lire nos textes, je vous présente d'abord le contexte de l'auteur qui a écrit la lettre que je vais lire. Il s'agit de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui a écrit cette lettre est un témoin oculaire pour avoir vécu avec Jésus pendant les 3 ans de son ministère terrestre. Il a entendu Jésus parler, enseigner les foules et parler du règne de Dieu. Et le texte que je vous propose se trouve dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, et nous allons lire jusqu'au chapitre 2, verset 2. Je vais afficher le texte, 1 Jean, chapitre 1. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Le texte s'affiche à l'écran. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main, on va vous prêter une. Tout le monde a sa Bible. OK, parfait. Faisons la lecture. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si, toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Voilà nos textes. Et notre frère Samuel nous a fait une belle introduction sur le psaume 139 et nous avons chanté aussi que la lumière de Christ chasse les ténèbres. Et le titre que je vous propose est celui-ci, l'impact de la lumière de Dieu dans la vie du chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que Dieu soit lumière, qu'est-ce qui soit là, impacter, influencer notre vie en tant que chrétien. Et le plan que je vous propose, il est là. C'est un plan en 2 points. Le premier point, nous allons voir, c'est quoi vivre dans la lumière. Nous verrons un sous-point, la vérité libère, et nous verrons l'application de cette vérité qui libère. Et enfin, nous verrons le dernier point, le péché vaincu, parce que Jésus est notre sauveur, il est notre défenseur, notre avocat. Et ça nous permettra également de voir le péché et ses conséquences. Et enfin, nous terminerons par une bonne nouvelle, le pécheur repentant est pardonné. Notre premier point, la lumière, vivre dans la lumière, c'est-à-dire pratiquer la vérité. Cet épître, en fait, nous montre le contraste entre, d'une part, la lumière qui est la vérité, et d'autre part, les ténèbres, c'est-à-dire les mensonges. Et les croyants sont confrontés à 2 choix. Le premier choix, c'est celui de marcher dans la lumière. Ça veut dire quoi? En venant à Christ par la foi, en lui faisant confiance et en lui ouvrant notre cœur par la confession de nos péchés. Et Jésus lui-même va déclarer, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, dit-il, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, que certains parfois font, c'est celui de marcher dans les ténèbres, en niant qu'ils sont pécheurs, ils se considèrent qu'ils ne sont pas pécheurs. Et on entend souvent dire, Ah non, je n'ai pas besoin de Jésus dans ma vie, tout va bien dans ma vie, je vis ma vie, tout est cool, et je ne fais de mal à personne, sous-entendu que je n'ai pas de péché. Mais en fait, ces personnes oublient qu'il y a aussi ce qu'on appelle le péché par omission. Ça veut dire que lorsque nous ne nous faisons pas ce que Dieu attend de nous dans une situation donnée, soit par négligence, soit par lâcheté ou par toute autre raison. Et Jacques nous rappelle ça, dans Jacques 4, verset 17. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Et je vous avoue que ce texte m'interpelle parfois lorsqu'on est animé par ce sentiment d'être indifférent devant une situation. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Et la parole de Dieu est claire à ce sujet-là. Et la lettre que nous venons de lire se contraste entre la lumière et la vérité, et aussi en lien avec le contraste qu'on peut avoir entre deux groupes de personnes. Celles qui pratiquent la vérité, et donc qui sont en accord, en communion avec Dieu, et en communion avec des frères et sœurs, c'est-à-dire qui font l'effort d'éviter l'hypocrisie et d'avoir le courage de dire la vérité avec amour, sans agressivité, sans jugement. Et le deuxième groupe de personnes, c'est celle des personnes qui nient, qui sont pécheurs. Et donc, le texte nous dit, ils sont dans l'illusion. Ils sont dans l'illusion et ils traitent de Dieu de menteur. Or, la réalité nous est rappelée par l'apôtre Paul. Romains 3, verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit ? Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Et j'ai deux questions à poser. La première, c'est peut-être que tu es chrétien depuis des années, depuis des lustres, comme qui dirait. La question est celle-ci. Marches-tu dans la lumière ou dans les ténèbres? La deuxième question, peut-être que tu n'es pas encore chrétien, et peut-être que tu es de passage dans l'Église, et peut-être que tu nous suis dans Zoom. As-tu conscience que nous sommes tous des pécheurs et que nous avons tous besoin du pardon divin? Et cela est possible grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. À chacun de réfléchir à ces deux questions. Le verset 5 que nous avons vu nous dit que Dieu est lumière. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est un langage imagé pour dire que Dieu, ça nous montre la perfection des dieux. C'est aussi une manière de nous montrer que Dieu est omniscient. Dieu sait tout et on ne peut rien lui cacher. Et en tant que chrétiens, nous sommes encouragés à marcher dans la lumière, à vivre dans la lumière, à pratiquer la vérité. Et la communion avec Dieu n'est possible qu'en rejetant le péché dont nous avons conscience et en rejetant le mensonge. Nous avons vu notre point, la vérité libère. Contrairement à une vérité scientifique est fondée sur le savoir, la vérité biblique est fondée sur la parole qui s'est faite chair. Voici ce que Jésus dit dans Jean 14, verset 6. « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Nous sommes encouragés à lire et à méditer la parole de Dieu. C'est en la lisant qu'on va découvrir cette vérité. Parce que lorsqu'on ne connaît pas la vérité, on peut facilement se laisser induire en erreur, on peut facilement être manipulé par des discours séduisants et par des discours trompeurs. Le problème, c'est que nous ne lisons pas, sinon très peu, sinon rarement. Nous sommes dans une société où on va aller vite, tout de suite. Je suis désolé de le dire, mais même dans le domaine spirituel, on va avoir des réponses toutes faites, tout de suite, et on va sur Internet. Le problème, c'est que sur Internet, tout y passe, les bonnes et les mauvaises. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la réalité. Or, notre boussole, c'est la Bible. La parole inspirée par Dieu. Et nous avons besoin de la lire. Et dans une attitude de prière et d'humilité, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons capables de discerner la vérité de Dieu. Ça veut dire quoi? Discerner la nature de Dieu, ses voies et ses enseignements. Et cette vérité, on ne peut que le découvrir dans la Bible. On peut lire plusieurs livres, mais nos livres ne peuvent pas remplacer la parole de Dieu inspirée par lui-même. Et ça, c'est des choses parfois que nous négligeons. Et je prie vraiment que Dieu nous donne ce désir de lire cette parole de Dieu pour apprendre à mieux le connaître. Mes chers frères et sœurs, il y a une vraie joie lorsqu'on découvre la parole de Dieu, lorsqu'on découvre cette vérité, parce qu'elle nous rend libres, elle libère notre conscience de toute culpabilité et elle nous permet de vivre une relation restaurée en paix avec notre Père céleste. Et voici ce que Jean dit dans Jean 8, versets 31-32. « Alors je dis aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous attachiez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Mes amis, la vérité nous rend libres. Attachons-nous à la parole de Dieu. Notre frère Jean-Claude nous a eu la joie de nous partager ce que c'est que nous attacher à la parole de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à réécouter ce message. On va me dire, mais Jarda, c'est beau ce que tu dis, mais qu'en est-il de la vraie vérité, de la vraie vie, dans la pratique? Alors, pour illustrer cela, je vous prends deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de la famille d'Isaac. Son deuxième fils, Jacob, en complicité avec sa maman, il va ruser, il va se déguiser, il va tromper son père Isaac, il va se passer pour Ésaü, le fils aîné, pour recevoir la bénédiction. Et il va réussir. Hein. Le problème, c'est que derrière, ça va créer un conflit dans la famille. Le fils aîné, Ésaü, furieux, il va chercher à tuer son petit frère Jacob, qui finit par fuir. Vous pouvez retrouver le récit dans Genèse 27. Genèse 27, vous retrouvez ce récit. La suite de l'histoire, c'est qu'il a failli que Jacob soit transformé pour que Dieu lui demande de retourner dans le pays des Canaan. Et Jacob va lutter dans un rêve avec l'ange de l'Éternel. Et vous pouvez retrouver cela dans Genèse 32, à partir du verset 25. Il va lutter, et vous savez, la question qu'on lui pose pendant cette lutte-là, quel est ton nom? Rappelons-nous, il a trompé son père, il s'est passé pour Ésaü pour avoir la bénédiction. Et son grand frère l'appelait le trompeur. Et là, dans cette lutte-là, vous voyez comment Dieu nous reprend et nous corrige. Il lui demande, quel est ton nom? Et là, Jacob ne porte pas de masque, il est lui-même, il dit vrai. Je suis Jacob. Et là, il dit la vérité. Enfin. Et là, Jacob va être transformé. Il va être béni, mais on va lui donner un nouveau nom, celui d'Israël. Et toute sa descendance sera appelée les enfants d'Israël. L'enseignement de ce récit, c'est que nous devons être prêts à dire la vérité, à être vrais, à être sincères pour servir notre Dieu. Si nous portons des masques, c'est une question de tout, de temps. Tôt ou tard, le masque finira par tomber. On finira par connaître notre vraie nature. Le deuxième exemple, pour illustrer cela, c'est notre témoignage à l'Église. Lorsqu'on vient à l'Église, on est tout beau, on est bienvenu avec tout le monde, on est gentil avec tout le monde. La question, mais qu'en est-il lorsqu'on est en dehors de l'Église? Nous avons parfois du mal avec nos amis, nos voisins, nos familles, parfois, à dire la vérité. On est parfois prêt à mentir pour être bien vu dans la société. Parfois, on demande quel est ton métier. Je suis ingénieur, docteur, enfin, ça fait joli quand même, hein. J'ai quand même fait des études. Mais parfois, c'est faux. Hein. Et parfois, on vit des situations difficiles. Perte d'emploi, ou problèmes financiers, ou encore problèmes de santé. Mais on a honte ou par pudeur de dire la vérité à des frères et sœurs. Est-ce que vous pensez que dans cette attitude, on peut vivre la communion fraternelle, on peut être partenaire de l'Évangile? Je relativise. Je bénis le Seigneur parce que nous avons quand même des frères et sœurs qui dépassent cette honte et qui font confiance en Dieu et avec qui nous avons la joie, les mardis matins derrière, à plier les genoux et à prier. Et Dieu entend nos prières. Moi qui vous parle aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je travaille, ça fait 14 ans, je n'avais pas reçu l'offre d'emploi. C'est parce que j'avais le courage et l'humilité de dire à un collègue la vérité sur ma situation personnelle, marié, 3 enfants, dans la précarité, en cumulant des CDD pendant 3 mois, que lui, il a reçu l'offre, il a dit, Jarda, tu es dans la précarité, on voit ton CV. Les gens voient le CV, aujourd'hui je travaille, ça fait 14 ans. Mes amis, lorsqu'on dit la vérité, Dieu voit la sincérité de notre cœur et Dieu ouvre les portes au travers des gens qui mettent sur notre chemin. Testez, vivez vos expériences. Je peux vous donner plein d'exemples. Et ça marche. Faisons confiance en Dieu dans ces moments-là. Et Dieu agit. Passons à notre deuxième point. Le péché vaincu. Le péché et ses conséquences. Pratiquer la vérité ou dire la vérité, c'est un vrai défi, hein, surtout dans nos mondes actuels. Avec les réseaux sociaux, les fake news, on est prêt à mentir, comme je l'ai dit, pour avoir plus de followers, plus de likes. Le problème, c'est que mentir était un péché. Je suis désolé, vous voulez le rappeler. Mentir était un péché. Et parfois, on a peur d'être découvert. Et lorsqu'on est découvert, on a honte. On est gêné. Et parfois, on fuit le regard de l'autre parce qu'on ne veut pas assumer les conséquences. Mais ce phénomène n'est pas nouveau. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, ce sont nos enfants. Ceux qui ont des parents l'ont peut-être expérimenté. Je me rappelle, mes enfants, ils commençaient à peine de marcher. Et dès qu'ils faisaient une bêtise, leur attitude changeait. Ou lorsqu'ils prenaient quelque chose qui était interdit, ils le mettaient derrière le dos. Et quand je m'avançais, ils reculaient. J'ai dit, ah là, ça, je sens qu'il y a une bêtise derrière. Et là, on se réalise qu'on est vraiment des descendants d'Adam. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Prenons l'exemple de Adam et Ève dans la Bible. Avant la chute, regardons le texte. Genèse 2, versets 22 à 23. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle s'est rappelée femme car elle était prise de l'homme. L'homme et la femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. » Tout va bien, la nudité, ce n'est pas un problème. Dieu avait pourtant fixé une consigne très simple. Vous allez manger de tous les fruits dans le jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez la suite de l'histoire. Adam et Ève vont désobéir. Ils vont manger ce fruit-là. Et regardons la suite. Une fois que le péché est commis, qu'est-ce qui s'arrive ? Genèse 3, versets 6 à 10. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec lui et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu ? » Celui-ci répondit, « J'ai été entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors, je me suis caché. » En réalité, Dieu voyait Adam, parce que Dieu voit tout. Sauf que Dieu a voulu qu'il exprime ce qu'il a dans son cœur, qu'il exprime son émotion. Il se cache de Dieu. Le problème, c'est que là, le péché étant commis, on a honte, on se cache. Parce que le péché soucie toujours ce sentiment de gêne, on ne veut pas être découvert. Le problème, c'est que Dieu voit tout. Et ce qui se passe, c'est que malgré notre rébellion, malgré notre désobéissance, Dieu, notre Père céleste, dans son amour et dans sa miséricorde, il fait grâce. Il restaure et il pourvoit. Regardons la suite. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Contrairement à Adam et Ève qui prenaient des feuilles de figuier pour cacher leur honte, là, Dieu y pourvoit avec des habits de peau d'un animal plus solide et plus résistant. Et cela montre aussi la nécessité d'un sacrifice pour restaurer, pour réparer ce qui est perdu dans le jardin d'Adam. Et certains commentateurs de la Bible disent que ce texte nous montre le besoin, la nécessité d'un sacrifice pour restaurer ce qui était perdu dans le jardin d'Éden. Et cela peut figurer également avec le sacrifice ultime de Jésus-Christ qui va venir mourir à la croix pour le pardon de vous et moi, pour nos péchés, et pour qu'on puisse vivre cette relation restaurée avec Dieu. Passons enfin à la bonne nouvelle. Le pécheur repentant est pardonné. Bien que Christ ait fait de nous une nouvelle créature, bien qu'il nous fasse croître en piété, je suis désolé, mais les chrétiens ne deviennent jamais parfaits sur cette terre, parce qu'il y a une réalité. Le texte nous le dit, hein. 1 Jean 1, verset 8, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'est pas en nous. » La vérité n'habite pas en nous. Et ça, c'est une réalité. La réalité, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Nous luttons tous avec le péché. Et ça, c'est une réalité. Mais à cause de notre nature pécheresse, sur cette terre, nous luttons tous. D'une manière ou d'une autre, on a vraiment du mal avec ça, nous luttons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution au péché. Et le texte nous le rappelle. 1 Jean 1, verset 9 nous dit quoi ? Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Il y a un processus. Nous devons être capables de confesser nos péchés. Reconnaître devant Dieu, oui, Seigneur, j'ai péché devant toi. J'ai péché contre toi, pardon. Et non seulement Dieu nous pardonne, grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes purifiés. Et ça nous permet de marcher en paix et en nouveauté de vie avec le Seigneur. L'apôtre Jean souligne la nécessité de confesser ce péché. Parce que Dieu, il sait tout et on ne peut rien lui cacher. On peut mentir à l'homme, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Parce qu'il voit tout et il sait tout. Mais nous devons trouver un équilibre. Parce que nous venons de dire que lorsque nous demandons pardon, grâce au sacrifice de Jésus, Dieu nous pardonne. Mais cela ne doit pas être une occasion pour continuer à pécher. Le pardon divin ne doit pas être une occasion pour continuer à pécher, ni encore banaliser le péché. Nous sommes appelés à fuir le péché et à pouvoir vivre de piété en piété, une vie de sanctification. Je suis conscient que c'est difficile de lutter contre le péché par nos propres forces. Mais nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit qui nous aide. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que nous avons un avocat. Nous avons un défenseur, Jésus-Christ. Le juste, le parfait, celui qui n'a commis aucun péché. Qui est assis à la droite du Père Céleste et qui plaide à notre faveur. C'est lui qui intercède pour nous. Et regardons le texte, Hébreux 7, verset 25, nous dit quoi ? Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Mes amis, notre Rédempteur, il vit. Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité, il intercède pour nous. Ayons cette humilité de nous adresser à lui et de demander pardon. En conclusion, cette lettre de Jean nous encourage à répondre à l'amour de Dieu par une vie d'obéissance. Et notre frère Joël Coutaillard nous a partagé dimanche dernier sur ce que c'est que vivre une vie d'obéissance conformément à ce que Dieu nous demande de vivre. Cette lettre que nous venons de lire nous encourage à faire preuve d'une foi sincère, une foi authentique, à ne pas porter de masque, à vivre une vie chrétienne qui est guidée et dirigée par la vérité et la parole de Dieu. Je suis conscient que nous ne pouvons pas vivre une vie sans péché à cause de notre nature pécheresse. Mais nous sommes encouragés à aller de piété en piété et à laisser le Saint-Esprit nous transformer pour nous aider à vivre une vie qui glorifie notre Dieu. Nous sommes appelés à être vrais et sincères avec nos frères et sœurs, à dire la vérité avec amour, sans brutalité, sans jugement, pour vivre des vies qui honorent Dieu et pour vivre dans la lumière. Dieu nous appelle à être lumière du monde. Mais si nous ne sommes pas capables de vivre en vérité, c'est difficile d'être lumière du monde. Dieu nous demande d'être sel de cette terre. Si nous n'avons pas un bon témoignage en termes d'intégrité, d'honnêteté et de vérité dans nos vies, c'est compliqué d'être sel de cette terre. Je propose de prier, incliner les têtes et prier. Père Céleste, nous bénissons ton nom parce que ta parole est la vérité. Elle nous enseigne, mais elle nous reprend également. Nous confessons toutes les fois que nous avons porté de masse, que nous avons marché dans les ténèbres. Demandons pardon pour cela, Seigneur, et nous te prions de ta grâce, de nous aider par ton Esprit Saint de discerner tes voies et à vivre dans la vérité parce que tu es lumière. Père Céleste, tu sais tout de nous. Comme a dit David dans le psaume 39, nous prions de sonder nos cœurs. Nous te prions de nous aider de vivre une vie sans hypocrisie et à vivre une vie dans la lumière qui est la tienne, Seigneur. À vivre une vie à l'image de Christ qui est notre modèle parfait, Seigneur. Ô Père Céleste, viens édifier ton Église, viens éclairer ton Église afin que nous soyons des chrétiens qui vivent dans ta lumière. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen.